L'été, dernier week-end avant la rentrée sur France Culture, direction la côte est des États-Unis et l'un des lieux les plus célèbres du monde universitaire, Harvard. Cap sur le campus, le Yard, les bibliothèques d'Harvard, sur la rive gauche de la Charles River qui sépare les villes de Boston et Cambridge. Harvard, la plus mythique des universités, université monde, sorte de ville dans la ville, Ville-Monde Harvard, première escale, bon voyage sur France Culture sans frontières.
H-bomb. One, what you drop when revealing to others that you attend Harvard University. Usage. Last night was our second date and I dropped the H-bomb, then she dumped me. Two, Harvard's overhyped, overexposed porn magazine.
Les étudiants ici appellent ça le H-bomb, la bombe H, c'est-à-dire la bombe Harvard. Je vous enverrai, si vous voulez, un lien sur le... Il y a des endroits où il y a le lexique Harvard expliqué aux étrangers, aux non-initiés. Mais le H-bomb, c'est le moment où, parce qu'en anglais on dit drop, quand on laisse échapper qu'on va à Harvard ou qu'on est allé à Harvard dans une conversation avec quelqu'un qui n'est pas de Harvard, c'est le moment où il y a habituellement une réaction qui est souvent de l'ordre de l'étonnement, du compliment, les superlatifs, etc. On dit « Oh, Harvard, congratulations ». C'est très fréquent. Et donc, on parle de « drop the H-bomb », ça veut dire le moment un peu inconfortable où on dit « Oui, je suis allé à Harvard », etc. Et ils développent toutes sortes de périphrases. Par exemple, ils vont dire « J'ai fait le college à Cambridge » ou « à Boston ». C'est des façons de ne pas dire « Harvard ».
Hello, I'm Diana Eck.
I'm Dorothy Austin.
We're masters of Lowell House, a wonderful community of students and grad student tutors and members of the faculty.
And we invite you to come to tea on Thursdays at 5. You'll love it. We'll see you soon.
Whoops.
Ville-Monde, Harvard, Le Mythe, Virginie Bloch-Lainé, Charlotte Roux, Mathieu Leroy. Perfect time, damn good time. Getting in the low, gonna blow your mind. Get low, get low, get low, get low, get low, get low, get low.
To the courtyards, to the bells, to the bells. The river gods to tell. To tell. Quad house in his hell. His hell. Ow, ding, 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 ding. Ow, ding, 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 dong. Get from ow, ding, 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 ding. Wake up. Ow, ding, 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 dong.
Dictionary of Harvardisms, from A to Z. The vocabulary you need to get through your life at Harvard. By the Crimson Staff.
Now stop. Then jingle with it. Now stop.
ABP, acronym for the fast food bakery Au Bon Pain, where croissants, cheese enthusiasts, Harvardians, and tourists abound just beyond the yard's wrought iron gates. Adam's House. Ad board. Advocate.
Harvard est une ville dans la ville. La plus ancienne et la plus riche université privée américaine est à Cambridge, Massachusetts, sur la côte est des États-Unis en Nouvelle-Angleterre. À quelques centaines de mètres, le MIT. Une rivière et quatre stations de métro séparent Boston du campus de Harvard. Mais les étudiants sortent rarement de ce qu'ils appellent la bulle. 21 000 étudiants de 130 nationalités différentes, 16 000 personnes qui y travaillent, professeurs et personnels de l'administration confondus. Les universités concurrentes de Harvard sont Yale, sur la côte Est, ou Berkeley, l'excellente université publique de la côte Ouest des États-Unis. À Harvard, une des 8 universités privées de l'Ivy League, on étudie, on se nourrit, on dort, on fait l'amour, la fête, on vit. Sylvie Laurent est chercheuse au Centre d'études africaines-américaines de Harvard et enseignante à Sciences Po.
Qu'est-ce que c'est, Sylvie Laurent, le Harvard Yard, le Harvard Square? Quand on dit sur le Yard, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, Le campus d'Harvard est organisé au sein de la petite ville de Cambridge qui jouxte Boston. Et donc il y a une petite place avec la station de métro, Harvard Square, dont sortent les étudiants et les touristes quand ils prennent le métro ou qui descendent du bus. On rentre sur le campus et le campus est organisé de façon polycentrique, mais principalement les endroits clés du campus se trouvent autour du yard, qui est une zone, une espèce de grande clairière en forme de quadrilatère sur laquelle voilà, les étudiants passent forcément et les professeurs plusieurs fois par jour pour aller d'un endroit à un autre.
Vous trouvez ça joli, Sylvie Laurent, le campus?
C'est très joli, c'est très bucolique, il y a des écureuils en automne, c'est absolument magnifique, c'est très vert, les bâtiments sont très beaux, c'est entre les églises blanches et les bâtiments qui cherchent à reproduire l'architecture d'Oxford, de briques rouges, c'est un splendide campus.
Vous connaissez d'autres campus que Harvard, lorsque vous êtes à Harvard, qu'est-ce qui est dans l'atmosphère propre à ce campus?
Peut-être quelque chose d'un petit peu suranné, la petite taille, je ne connais pas tous les campus, mais c'est un campus qui est plus étroit, plus petit que Yale par exemple, ou d'un autre le campus que je connais le mieux, qui est le campus de Stanford, l'université beaucoup plus récente, très très étendue, qui est une sorte de parc gigantesque avec une architecture espagnole où les étudiants se déplacent à vélo. Et il faut parfois près de 15 minutes pour aller d'un bout à l'autre du campus de Stanford, très moderne, très orienté sur les sciences de l'ingénieur et les sciences dures, donc avec une architecture complètement différente. Harvard, c'est un côté petit village avec un sentiment que dans un si petit espace clos de si grands esprits depuis le milieu du XVIIe siècle sont là. Il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, de l'entre-soi aussi sans doute, mais on se demande comment entre ces quelques murs qui ont l'air coupés du reste de la ville et du pays, d'aussi brillants esprits peuvent avoir éclos et continuer à éclore chaque jour, puisque chaque jour de nouveaux étudiants brillants, fussent-ils des étudiants qui quittent Harvard comme Mark Zuckerberg avant d'avoir leur diplôme, continuent à entretenir la légende de l'université.
Yale. School spirit? Check. Deep-seated inferiority complex? Of course not. Who told you that? Yale. Profond complexe d'infériorité? Bien sûr que non. Qui vous a dit ça?
Où est-ce qu'on est là, Louis? Vous pouvez nous décrire un peu?
Oui, donc là, on est tout au milieu de Third Century Theater. Et ici, on a tout d'abord Memorial Church, qui a été construite pour commémorer les soldats qui sont morts dans la Première et Seconde Guerre mondiale. Là, on a Seaver Hall. C'est un bâtiment qui a beaucoup de salons. Widener, c'est la bibliothèque la plus grande et en fait c'est la collection la deuxième plus grande de livres dans le monde après The Library of Congress à Washington. Et ici on a le bâtiment administratif, University Hall.
C'est là qu'est la doyenne, c'est là qu'est Drew Faust.
Drew Faust, elle habite à Massachusetts Hall, donc c'est un bâtiment qui est juste de l'autre côté. Mais oui, elle habite pas là, elle a ses bureaux là.
Il y a un petit écureuil là, devant nous.
Oui.
Mais vous ne faites plus attention, tellement il y en a.
Oui, voilà. Oui. Mais c'est vrai que les touristes, quand ils viennent, ils les prennent en photo et nous, on trouve ça très marrant qu'ils les prennent en photo.
Oui, oui. Ce sont les touristes.
Oui.
Il y en a toute la journée sur le campus.
Toute la journée. Dès 6h du matin, il y a des touristes.
Du monde entier.
Oui.
Souvent, c'est un étudiant qui fait le guide touristique. Alors, on en a vu quelques-uns, des étudiants.
Voilà. Je peux plus parler parce que.
The land information only provide the news office. Or whatever.
Harvard University Police Department, HUPD. Harvard University Police Department, HUPD. 1. Rhymes with cup of tea. 1. Rime avec tasse de thé. 2. Ils assureront votre sécurité. Mais faites en sorte qu'aucun effluve d'herbe aromatique ne s'échappe de votre chambre. Ils la trouveront.
Robert Darnton, vous êtes historien. Vous êtes spécialiste des Lumières de la Révolution française. Et vous êtes directeur de toutes les bibliothèques de Harvard. Ici, nous sommes dans votre bureau, qui est dans une jolie maison jaune. Je crois que dans ce bureau est venu George Washington à la fin du XVIIIe siècle.
Je suis très ému d'avoir mon bureau dans un un endroit, une maison construite en 1728. Et comme 18e-iste, je me sens même inspiré, je dirais, par ce passé.
Robert Darnton, avec quel projet éthique, moral et religieux a été créée l'Université de Harvard en 1636?
Eh bien, d'abord, former la jeunesse. C'était des puritains féroces même, qui voulaient construire une nouvelle société. Cela s'appelait à cette époque-là « société sur une colline », c'est-à-dire exposée au regard de Dieu, une sorte d'expériment un peu fanatique, il faut bien le dire. Et cela, à partir de 1630, presque immédiatement, ils ont décidé de créer une académie, c'est-à-dire une sorte de petit lycée modeste, ceci en 1636. Et sans doute, le but principal était de former une nouvelle génération qui serait dévote, consacrée à cette lutte dans la frontière, puisqu'ils étaient entourés de sauvages et de forêts, etc., de former une jeunesse vraiment dévouée à la cause de l'Église, mais une Église démocratique. À cette époque-là, il n'y avait qu'une poignée de jeunes gens, mais l'important, si j'ose dire, était la bibliothèque. Je suis très partisan des bibliothèques, mais sans forcer la chose, je peux affirmer que le petit collège, ensuite l'université, a grandi autour de sa bibliothèque. Et le nom même de Harvard dérive de la bibliothèque, parce que un certain John Harvard, dont on connaît très peu de choses, a légué sa bibliothèque à sa mort en 1638, 2 ans après la fondation du petit collège. Il a légué cette bibliothèque qui avait à cette époque 400 volumes. Bibliothèque gigantesque, la plus grande de l'Amérique du Nord. Et à cause de cela, le collège a pris le nom de Harvard. Et maintenant, nous avons presque 18 millions de volumes. C'est la plus grande bibliothèque universitaire du monde, de loin, mais qui continue à célébrer cette tradition qui remonte au XVIIe siècle.
Robert Darnton, il y a sur le yard une statue de John Harvard, mais il paraît que ce n'est pas John Harvard.
Eh bien, cette statue est célèbre. Chaque touriste doit toucher au pied de John Harvard, mais on n'a aucune idée de quelle était la figure de Harvard. On ne connaît à peu près rien. Mais tout le monde croit fermement que ça représente le véritable John Harvard. En fait, c'est une sorte de statue d'après un modèle idéal de l'étudiant beau, bien en forme, et qui regarde directement devant soi. Enfin, c'est amusant.
Et toucher le pied de John Harvard, c'est pouvoir devenir plus intelligent.
Eh bien, qui sait, qui sait. Je n'ai jamais posé la question aux touristes, qu'est-ce qu'ils attendent? D'abord, il faut qu'ils soient photographiés, ça va de soi. Est-ce que ça porte bonheur, peut-être? Ou est-ce que cela va vous lancer dans une carrière? C'est possible. Une fois, c'était très tard, je me promenais sur le campus et un Africain m'a arrêté et m'a dit « C'est l'université la plus importante du monde. Que dois-je faire pour y entrer ?» C'est question naïve des gens qui viennent de partout et qui veulent être formés et s'avancer dans la vie. Donc c'est assez émouvant, je trouve.
It's John Harvard, that's what I thought. That's what it is.
Je ne vous recommande pas de toucher le pied de cette statue.
Caresser le pied de John Herbert.
Oui, et quand vous fermerez le micro, je vous expliquerai un peu mieux. Là.
Il faut pas.
On ne peut pas trahir le secret de cette tradition.
Il se passe d'autres choses. Vous l'avez fait en ignorant les choses que vous allez nous révéler. Vous l'avez fait en arrivant.
On m'a averti dès mon arrivée.
Republican. Punch. Qdoba. Quadded. The Queen's Head. Quincy House. Radcliffe. Reading period. Républicain, rare spécimen politique en voie d'extermination par l'espèce dominante des progressistes de gauche. Vous pouvez les regarder brouter.
Vous pouvez expliquer, Sylvie Laurent, les termes college, graduate, undergraduate, freshman?
Oui, alors c'est un petit peu le jargon de l'université. L'université est composée principalement de deux entités particulières, ce qu'on appelle le college, c'est-à-dire les quatre premières années de scolarité de l'enseignement supérieur, qui commence par l'année de freshman, donc c'est la première année. Au bout de quatre ans, on obtient un diplôme qui fait de vous un diplômé de l'université américaine. Et si vous voulez poursuivre vos études pour vous spécialiser au-delà de ce qui serait l'équivalent d'une licence maîtrise, vous pouvez aller dans une graduate school et à ce moment-là, vous poursuivez vers des études de type doctorat. Donc il y a une différence entre l'essentiel des étudiants qui sont en fait la force vive des universités et d'Harvard, qui sont ceux du college, les petits jeunes dont une grande partie partiront, et la partie des troisième cycle, si vous voulez, qui est répartie entre différentes écoles, différentes grad studies sous le chapeau de Harvard.
Vous pouvez citer, Sylvie Laurent, quelques noms de grands professeurs actuels de Harvard?
Je peux vous parler de Michael Sandel,
qui est la star,
qui remplit des amphithéâtres pour les étudiants de première année comme pour les étudiants de doctorat.
Vous avez déjà assisté à un cours de Michael Sandel, par curiosité? Vous êtes déjà rentré dans l'amphithéâtre Sanders
pour
le voir?
Non, mais alors de moins en moins ça va être utile parce que le cours de Michael Sandel fait partie de ces cours qui sont désormais en ligne. Vous savez que la grande réforme de Harvard en association avec le MIT depuis quelques mois et la mise en ligne de ses cours les plus prestigieux afin de les vendre à d'autres universités ou de vendre kit en main des cours de Michael Sandel, notamment son cours de justice.
What's the right thing to do?
Très prestigieux.
That's a question I've asked thousands of students at Harvard University in my class Justice. My name is Michael Sandel. And over the years, thousands of students have joined me for an ongoing debate about the moral
Mathieu et Nicolas, vous pouvez me dire chacun d'où vous venez avant d'être ici à Cambridge. Vous veniez d'où?
Moi, je suis de Genève, en Suisse.
Moi, je suis de Saint-Priest, en Suisse.
Vous avez quel âge?
Moi, je vais avoir 19 ans dans deux semaines.
Moi, je vais avoir 21.
And now, I have the chance to invite you to join us as Harvard opens its classroom to the world.
Est-ce que vous assistez l'un ou l'autre au cours de Michael Sandel?
Il le donne que en automne et puis moi je l'ai fait. Ouais.
Alors c'est bien?
Moi j'ai trouvé vraiment ça excellent. Donc c'est une très très grande classe et je pense si vous demandez aux 600 personnes, il y en a peut-être 400 qui vont dire que c'était excellent et 200 qui vont dire que c'était pas assez attentionné, un peu pas assez personnel et tout ça. Mais moi j'ai trouvé vraiment incroyable, quoi. Moi, on parlait de différentes philosophies et chaque fois, il reste complètement neutre, il répond aux questions, il met en avant des situations impossibles à répondre, quoi. Et,
vous avez des exemples de situations qu'il vous propose?
Disons.
C'est de la philosophie politique appliquée à des cas, enfin, illustrée par des cas concrets. La philosophie politique et morale?
Plutôt morale, ouais. Ethics. Et donc, une situation parfaite, c'est il essaie de voir si utilitarianism c'est bien ou pas bien, et puis il nous donne un exemple. C'est imagine qu'il y a un train qui est en train d'arriver, tu vois plusieurs personnes qui vont se faire tuer. Toi, t'es sur un pont, et il y a quelqu'un à côté de toi qui est. Toi, t'es personnellement pas assez obèse pour arrêter le train, mais tu vois quelqu'un que tu sais. Ça, c'est voilà, c'est, que tu sais sera capable d'arrêter le train si tu le jettes dessous. Est-ce que tu peux faire ça ou pas? Et après, il remet ça en lien avec vraiment des valeurs qu'on doit avoir, qu'on ne doit pas avoir. Et puis, il nous laisse la liberté d'avoir les valeurs qu'on pense sont justes après qu'il nous ait tout présenté. Et vraiment, c'est terrible. Moi, j'ai passé des nuits où je ne dormais pas parce que j'y pensais trop. Et puis, après chaque cours, après chaque grand philosophe qu'on a vu, je me disais, ah, bah, tiens, je crois que c'est ça qui est juste. Et il arrive à nous convaincre. Et après, il démonte la philosophie complètement jusqu'à ce qu'il arrive au dernier.
Alors, Sandel, il donne son cours dans un grand auditorium. Il est sur une estrade. Ouais, il se balade sur l'estrade.
En fait, l'auditorium s'appelle Sanders Theatre.
Ah, oh là là.
C'est presque Sanders.
Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a ces lectures, on est vraiment un peu passif et puis on écoute. Et ensuite, il nous divise dans des groupes de 10 à 12. Et on est mis avec des TF. Donc, des TF, c'est Teaching Fellows. Professeur assistant, en gros, et puis ça, c'est une autre chose avec les Américains, il faut savoir prendre position. On était devant 12 personnes, et le TF te regarde dans les yeux, et puis dit, bon, maintenant, tu le pousses, le gros, ou pas? Voilà. t'es là, et tu dis, non, bah, et puis tu bégayes un peu pendant quelques secondes, après tu te mets tes idées au clair, et tu réponds. Et je trouve
être pragmatique.
Ça, c'est très utile. Et puis on voit ça chez les Américains de façon générale, parfois un peu trop, mais ils sont très rapides à prendre des décisions et puis après ils arrivent à défendre ce qu'ils pensent. Ouais.
Now consider another doctor case. This time you're a transplant surgeon and you have 5 patients each in desperate need of an organ transplant in order to survive. One needs a heart, one a lung, one a kidney, one a liver. And the 5th, a pancreas. And you have no organ donors. You are about to see them die. And then it occurs to you that in the next room, there's a healthy guy who came in for a checkup. And he's...
Randall Kennedy, selon vous, pourquoi l'administration de l'université ne souhaite pas que l'on enregistre les cours des professeurs ou que l'on enregistre à la bibliothèque Weiner? Il n'est pas possible d'assister à un cours avec un dictaphone?
Vous avez voulu assister à un cours et en enregistrer une partie. Je ne suis pas sûre, mais je pense que Harvard restreint son accès aux non-étudiants. Il y a, par exemple, beaucoup de personnes qui veulent tourner des films ici, et en règle générale, l'université refuse. Il me semble que c'est plutôt pour des raisons de confidentialité, mais également parce qu'ils ont peur de perturber le travail des étudiants. Les enregistrements risqueraient en effet d'empêcher certains étudiants d'être totalement à l'aise en cours, surtout s'ils se demandent pourquoi ils sont en train d'être enregistrés sans savoir comment les enregistrer. Seront utilisés. Je pense que Harvard interdit cela avec de bonnes intentions, car l'université respecte scrupuleusement la vie privée des étudiants et souhaite conserver leur attention sur des objectifs académiques.
Sexe. Quelque chose que vous ferez très souvent à Harvard avec des gens très beaux. Promis juré. 2. Ne détermine pas l'intelligence scientifique d'une personne. 3. Rapport sexuel. Il n'y a que à Harvard que ce point arrive en 3e position. Sexy. Le fait d'être temporairement exclu de sa propre chambre pendant que votre colocataire s'engage dans des activités sexuelles avec son partenaire régulier ou non.
Pendant que j'étais étudiant moi-même à Harvard.
En quelle année? J'ai
terminé mes études ici en 1960, donc je date depuis très longtemps. La vie d'étudiante était très mouvementée, très drôle. Moi, je me plaisais comme fou, enfin, j'adorais cela. Et vous savez, il y a une certaine sociabilité attachée aux grandes universités américaines. Pendant que j'étais étudiant, mon collège, mon house, était censé être pour les bohémiens. C'était un peu le modèle français. On imaginait Sartre fumant des gauloises.
Une vie de bohème, c'était une vie... Oui. Vous habitiez quelle maison?
Ça s'appelait Adams House.
Ah, il paraît que c'est la préférée des étudiants parce qu'elle est très jolie.
Oui, elle est jolie, elle est bien, mais il y a d'autres qui sont même plus belles. Mais il y avait une atmosphère de débat perpétuel, on se considérait à gauche, on aimait beaucoup les écrivains français, c'était un peu notre modèle. Mais nous étions naïfs, bien sûr, on croyait tous les étudiants parisiens en train d'avoir des débats, de manifester, on était très... influencé par un certain modèle français qui était parfaitement faux, bien sûr. C'était un folklore français qui traversait l'océan pour imprimer ses idées chez nous. Je ne sais pas à tel point ça existe aujourd'hui, puisque aujourd'hui, les étudiants se dirigent plutôt vers l'Asie. Je suis étonné du nombre d'étudiants qui voyagent en Chine, en Inde, un peu partout, en Amérique latine également.
Vous avez une idée, Robert Darnton, vous parlez de l'imaginaire folklorique que les étudiants américains pouvaient avoir de la France dans les années 60, de l'imaginaire folklorique que l'on peut avoir dans les années 2010 sur Harvard.
Il faut dire que Harvard est, à vrai dire, une universitaire nationale. N'est-ce pas? Les étudiants viennent vraiment de partout. Ce n'est pas uniquement de la Nouvelle-Angleterre, de Boston, au contraire, et de tous les pays du monde. Donc c'est très international et ils arrivent ici avec des bourses. À peu près tout le monde est boursier. Ça coûte très cher à Harvard, mais ceux dont les parents ne sont pas riches sont complètement subventionnés. Alors, ils arrivent, mais souvent avec une idée dans leur tête de cette grande université la plus réputée des États-Unis, et ils ont peur. Qu'est-ce que je fais ici? Ils ont dû faire une erreur. C'était d'ailleurs le cas de ma femme qui est venue de Arkansas, c'est-à-dire d'un État très peu développé. Elle était la seule, bien sûr, de sa classe qui est venue. Elle avait une bourse et elle était, mais... effarouchée par ces gens sophistiqués de Harvard. Elle avait très peur des professeurs. Je pense qu'elle représentait une tendance très répandue, à savoir des gens de beaucoup de talent, mais qui n'étaient pas nés, qui n'avaient pas ce capital culturel et qui avait beaucoup d'énergie, de talent, et d'ambition souvent. Mais pour nous autres professeurs, ce sont ces étudiants-là qu'on estime surtout. Des gens qui vont former l'esprit public dans quelques années. Et il y a des succès épatants, comme vous savez, Bill Gates et compagnie.
Vous avez quelques noms, Robert Darnton, à nous donner d'anciens élèves?
Pas mal de présidents, n'est-ce pas? Donc Obama a passé par l'école de droit. Il y avait aujourd'hui ceux qui sont la plus en vue sont des gens comme Bill Gates, Facebook, etc.
Mais parmi les intellectuels?
Parmi les intellectuels, si vous prenez les romanciers, John Updike était parmi les plus connus des États-Unis. Il était très attaché à Harvard. Toute sa vie, il a légué ses archives à Harvard. T.S. Eliot, n'est-ce pas, formé à Harvard, aussi du Middle West. Ça, c'est un bon exemple de quelqu'un qui n'était pas né avec... ce n'est pas un fils à papa, hein, ni à maman.
Christine, vous avez fait votre collège à Harvard.
Il y a une phrase sur une des portes du Harvard Yard que j'aime beaucoup et c'est « Enter to gain knowledge, depart to serve thy country ». Et c'est quelque chose que j'aime très bien, c'est-à-dire que ça ne suffit pas juste de faire de recherche, d'apprendre beaucoup, il faut l'appliquer afin qu'on puisse améliorer les vies des citoyens. Et c'est quelque chose qui était très important pour moi en étudiant le gouvernement américain, par exemple.
Et vous veniez d'où? De quel état?
Je viens de l'état de Missouri, c'est au milieu des États-Unis, au Midwest.
C'est à combien de temps de Harvard?
En avion, c'est environ 2h30. Mais je ne sais pas combien de temps en voiture, ça sera un peu difficile, mais...
À partir de quel moment vous avez voulu entrer à Harvard?
C'est quelque chose, j'ai réfléchi un peu pendant mon année terminale à Kansas City. Et en fait, heureusement, j'ai reçu une bourse de mon lycée d'assister aux cours de Harvard pendant l'été, avant que mon année terminale au lycée. Et ça, c'est le moment où j'ai découvert Harvard et j'ai tombé amoureuse un peu.
Christine, combien coûte une année de scolarité à Harvard lorsqu'on arrive au collège?
Environ 50 000 dollars.
Et pour 50 000 dollars, on est logé?
On est logé, on est nourri et on a les frais de scolarité aussi. Mais il y a très peu d'étudiants qui payent vraiment 50 000 dollars. Ça, c'est un peu rare. Je crois que peut-être plus qu'une moitié des étudiants pour le bachelor's reçoit des bourses très significantes, très grandes, grâce à l'université.
Ces bourses, elles sont données par qui? Par l'université ou par...
Par l'université, mais l'université reçoit l'argent des mécènes de Harvard, les anciens, qui donnent beaucoup de l'argent pour que les étudiants puissent y venir pour étudier.
Est-ce que l'argent que donnent les bourses, est-ce que c'est cet argent que donne l'université
oui,
à l'étudiant, est-ce qu'il faut les rembourser?
Non. Non, non, non. Pour la plupart des universités, c'est un système de prêts qui est un peu controversiel maintenant politiquement parce qu'il y a de grands problèmes avec les prêts d'étudier aux États-Unis.
Mais donc oui. Harvard ne fait pas de prêts.
Oui, mais Harvard, bien sûr, a la possibilité, la capacité d'avoir un grand système des anciens qui peuvent aider.
Vous voulez travailler pour le gouvernement américain?
Oui, oui, peut-être. Oui. J'ai étudié le Moyen-Orient à Harvard et c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Et je voudrais avoir une carrière en service public, mais aussi peut-être avec les entreprises qui fonctionnent au Moyen-Orient aussi. S'il y a une façon où je peux appliquer mon expertise et ma passion pour la région, je voulais bien sûr le faire.
Dès le moment où vous êtes accepté, vous entrez, et j'ai entendu assez de discours ici pour bien sentir le message, c'est que vous appartenez à cette famille harvardienne, et le sous-entendu, c'est qu'on vous donne beaucoup, vous recevez beaucoup quand vous êtes étudiant ici, et vous bénéficiez non seulement de l'éducation et de la formation, mais aussi de tous les contacts qui viennent avec ce réseau des alumni. Et plus tard, c'est un peu votre devoir moral de rendre ce que vous avez reçu et d'en faire profiter d'autres. On vient ici pour les cours, pour l'éducation, mais on vient aussi ici pour tisser ces liens pseudo-familiaux d'une certaine communauté. Et ça passe beaucoup par le système des résidences, les houses.
Oh my God, Nisa, look at that house. It is so big. It looks like that guy Jeremy Lin's house or something. Who understands those Leverites?
They only live in her because she has beautiful views of the Charles, okay?
I mean, her towers are just so big.
I can't believe it's so tall. It's like up there. I mean, unfair. Look.
She's just so perfect.
I like Web House and I cannot lie.
Leverett House. 1. Home to the famous 80s dance. 2. The only house where students have to cross the street to get to their own dining hall. 3. The mascot is a bunny. Come on, a bunny?
Incest fest is whack.
So, Leverett.
Yeah.
Leverett.
Yeah.
Ain't our house the best?
Hell yeah.
Tell me about Leverett.
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 Ain't nothing wrong with that. Baby got love.
L-E-V with a bunny booty.
Donc, il y a une liste, Christine, qui est faite tous les ans par le Crimson, des mots utilisés sur le campus de Harvard pour se moquer soit des étudiants, soit des étudiants des autres universités, de l'Ivy League et de Yale en particulier. Et c'est une liste assez... qui donne une idée d'un certain snobisme du campus, de l'entre-soi. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine, de cette liste?
Oui, c'est intéressant. les définitions sont un peu difficiles. Je lis maintenant les définitions de ma maison.
Adam's house.
Adam's house.
Vous pouvez la lire, Christine?
Faux, pretentious, overrated, upper class house located close to the yard. It's not overrated.
Donc, c'est soi-disant la maison la plus jolie.
Oui, c'est-à-dire que c'est très prétentieuse et surfaite, mais je crois que c'est pas du tout le cas parce que c'est ma maison, je l'adore. C'est plus que tout le monde est un peu jalouse parce que nous sommes le plus proche de campus. On a une marche au cours, peut-être 2 minutes, et Matherhouse, c'est 12 minutes ou peut-être un bus ou quelque chose comme ça. Non. C'est juste des jalousies, mais.
Matherhouse. Immonde bâtiment anti-émeute conçu par un architecte spécialisé dans les prisons qui abritent une population d'étudiants étrangement fiers d'y résider. Il porte derrière des bandeaux à son effigie.
Voilà notre salle à manger qui est pleine de lumière avec une vue de la rivière par là. Si vous avancez un peu, vous allez voir.
Il y a un cours de tennis, il appartient aussi à l'université.
Non, ça c'est la ville. Ça appartient à la ville, oui. Ça c'est la ligne. On est à la frontière est du campus. Oui. Et ce que vous voyez en face, c'est Boston. Par là, de l'autre côté. Par là, vous avez HEC, n'est-ce pas, haute études commerciale, Harvard Business School en face, oui.
Il faut traverser la Charles River.
C'est ça.
Hi, would know, but would you like to say a few words about the dining hall tour? You're here, come on.
Vous êtes de quelle région, c'est quasiment?
Moi, j'habite en Allemagne. Je suis allemande, mais ma mère est française, c'est pour cela que je parle français.
Pourquoi vous aviez envie de venir
C'est un collège incroyable. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on n'a pas en tant qu'étudiante en Allemagne ou en Europe. Il y a vraiment un sentiment d'être avec les autres étudiants. On connaît tout le monde et je peux travailler dans un laboratoire avec des professeurs incroyables. Je suis dans les sciences, je fais la biologie humaine. Alors, je travaille sur Parkinson's avec le professeur Lee Rubin. Et c'est une opportunité que je n'aurais jamais pu avoir en Europe. Et j'ai beaucoup d'amis, je fais du sport, l'équipe de sport pour le collège, rowing.
De l'aviron?
C'est crew.
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 C'est un truc américain, il n'y a pas ça en Europe comme ça.
C'est anglais.
Oui, exactement. Et je peux voir tous les autres collèges et on voyage ensemble. C'est très différent. Je trouve qu'en Europe, c'est plutôt l'étudiant est tout seul et il fait son truc. C'est tu vas au collège juste pour apprendre et après tu rentres et ta vie est plutôt séparée. Et ici, c'est vraiment tu fais partie de quelque chose de plus grand. C'est vraiment magnifique.
Tu passes combien de temps à faire du sport
On entraîne 9 fois la semaine. Oui, par exemple, j'avais à 7h du matin aujourd'hui et à 4h, je retourne et je passe 1 heure par jour pendant la semaine dans mon laboratoire et après plutôt tout le week-end pour les grands expériments. Et après, je sais pas, je fais beaucoup de devoirs, je regarde la télé.
Tu as vu le film The Social Network?
Oui, bien sûr, mais c'était pas fait ici. Le film est tourné à Johns Hopkins University et à Andover High School parce qu'il n'y a pas le droit de faire des films sur le campus de Harvard. Pas depuis les années 70 de Love Story. C'est le dernier film qui était fait ici. Et c'est très intéressant de regarder un film comme ça. Nous, on est tous allés le voir au AMC Love, le cinéma qu'on a ici. Et c'était une comédie totale pour nous parce que ça n'a rien à voir avec l'université du tout. Ça se voit vraiment que c'était écrit de la perspective des gens qui n'étaient pas heureux ici ou qui ont seulement passé 2 années ici parce que tout le drame avec les final notes, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout. Ça, c'est vraiment 2-3% de tous les étudiants ici qui s'intéressent à ça. Alors, c'est pas.
Tu te promènes parfois à Cambridge, dans la ville de Cambridge, ou tu sors rarement du campus hein? C'est ta ville, le campus.
Je voudrais dire que je sors. Je sors pas autant que je voudrais. Je fais du babysitting avec des familles qui sont en dehors de Cambridge. Genre, je prends mon bus, je sors de la bulle, c'est toujours très bizarre. Mais sinon, il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a les restos, il y a des endroits pour faire du shopping, il y a mes cours, il y a mes amis. Alors, il n'y a pas vraiment un grand besoin de sortir.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Géraldine? T'aimerais travailler aux États-Unis? T'aimerais travailler en Europe?
Ça, c'est la question, 1 000 $. J'ai aucune idée. Je vais peut-être faire la médecine et rester aussi dans le monde des sciences. faire des recherches avec les cellules mères et le cerveau, Parkinson, des choses comme ça, ce que je fais en ce moment. Mais je vais peut-être faire un MD. Mais je pense qu'après l'université, je vais peut-être prendre une année pour voyager un peu en Australie et faire un programme qui s'appelle Teach for Australia et travailler en tant que teacher. C'est bien ça. Mais sinon, oui, je pense que je vais rester en médecine et peut-être faire un jour, c'est mon rêve plutôt, c'est faire aussi Médecins sans frontières pendant que je suis encore jeune et après, je sais pas, on verra. Les plans, c'est dur. Je sais pas si je vais rester aux États-Unis.
Qu'est-ce qui se passe, Géraldine, autour de la statue de John Harvard? Parce qu'il y a un professeur ici qui nous a dit que cette statue, elle avait une double vie. Elle a une vie officielle, touristique. Et puis elle a une autre vie, la
je
nuit avec les étudiants. Qu'est-ce que vous en faites?
Alors, je veux dire qu'elle a une vie pendant la journée.
Mais il nous a déconseillé fortement de toucher le pied.
Il vaut mieux pas toucher. Je vais rester avec ça. Je n'ai pas envie de perdre mon boulot.
Took a shot at the run. No other house was as fun. I knew then you were the one. The tower's in my way. I want my own single now. Only one way I know how. Come to my door with a vow. The nether's in my way. Your house is wicked. Give me the golden ticket. If I could, I'd take it. Where you think you're going, baby? You got the tower.
Ah d'accord.
Parce que c'est le soir donc.
C'est mon second prénom.
C'est vrai? Ouais. Ah ben voilà.
C'est marrant.
Vous avez choisi la...
Parce que c'est une icône en fait. Parce que c'est une icône touristique. Mais souvent un peu d'ailleurs méprisée par les locaux. Mais parce que la tradition c'est de toucher le pied de John Harvard. Et de se prendre en photo en touchant le pied gauche. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est plus usé que le pied droit. Enfin, quand on habite ici,
on le fait plus. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Samuel? Vous êtes là pourquoi?
Alors,
vous êtes à Harvard, comment?
Oui, bien sûr. Donc moi, je suis étudiant en échange, en fait, avec mon école, l'école normale.
Vous êtes français?
Je suis français.
Normalien.
Voilà. Et je suis ici une année pour enseigner le français, la langue française à Harvard, aux étudiants de premier cycle, qu'on appelle les undergraduates.
Ils sont tout jeunes.
18-22 ans. Et par ailleurs, j'assiste à des cours.
Et les étudiants auxquels vous donnez des cours de français, vous pouvez vous lier à eux? Enfin, ils vous invitent à leur fête? Vous déjeunez avec eux?
Ils disent ici « try to be friendly but not friend ». Not their friend. Être amical, parce que c'est le style américain, très différent du style d'enseignement français, beaucoup plus proche des élèves. Et ça, même les grands professeurs, les grands pontes, les prix Pulitzer ou tout ce que vous voulez, ici, sont très proches des élèves. Mais en même temps, il faut quand même garder une certaine distance, qui est aussi une certaine éthique, hein, parce qu'on va quand même les noter, les évaluer, donc on ne peut pas se permettre en même temps de trop socialiser. Alors, il y a une différence entre les étudiants peut-être français et parisiens que j'ai pu côtoyer et les étudiants américains, ça c'est sûr. Beaucoup plus relax ici. Hein. J'ai parfois vu des élèves arriver en pyjama et chaussons en cours, quand même. Hein. Enfin, ça arrive une fois tous les deux mois et moi ça me fait plus rire qu'autre chose donc non, je dis rien parce qu'en plus on nous avait prévenu que ça faisait partie de la culture ici, locale, donc c'est pas un problème. Et de façon plus générale, effectivement, l'élégance c'est pas quelque chose qui... Alors, enfin, c'est les extrêmes en fait, comme toujours, hein, comme souvent, j'ai l'impression, dans ce pays. Donc c'est... En général, sur la vie quotidienne, c'est beaucoup moins élégant, je dirais, que les Français ou que les Parisiens. Oui, je vous dis, des vêtements sportifs, des pyjamas, des vêtements pas moulants, pour les filles en particulier. Et par contre, quand on sort, alors là, c'est des talons de 15 cm, les garçons sont tout de suite en smoking, souvent directement, même pas le costume, etc., la cravate, etc. Donc c'est un peu les extrêmes, quoi.
Alors que souvent sur d'autres campus, il y a beaucoup d'étudiants qui sont habillés aux couleurs. C'est-à-dire qu'ils portent un t-shirt. Dans notre cas, ce serait ce rouge qu'on appelle crimson, donc cramoisi, avec écrit Harvard dessus. Il y a une certaine retenue par rapport à ça chez nos étudiants. Je crois qu'ils apprennent assez tôt justement que les étudiants de Harvard, en général, ne s'habillent pas beaucoup aux couleurs de Harvard parce que c'est un peu trop ostentatoire.
C'est le puritanisme.
Oui, c'est ça. Et aussi parce que les touristes achètent ces t-shirts, etc. Donc, c'est en fait...
Ils l'achètent. Il y a un magasin qui s'appelle The Coop.
Oui, voilà.
Sur le Harvard Square.
Voilà.
Et alors là, il y a...
On peut acheter non seulement des t-shirts, mais toutes sortes, enfin, des tasses à café, des balles de golf, des stylos, des tapis pour la souris à l'ordinateur, toutes sortes de trucs aux couleurs et aux logos de l'université.
Hein, donc, pour s'en distinguer, les étudiants, contrairement à ce que d'autres campus...
Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on ne voit pas... Pas autant que sur d'autres campus, des étudiants qui sont habillés avec le logo de l'université.
Karine, vous êtes freshman. Vous avez quel âge ?
Alors, je viens d'avoir 18 ans.
Et vous venez de Madagascar, vous êtes
arrivé ? Exactement, oui.
Vous êtes arrivé il y a combien de mois ?
Alors, je suis arrivé ici le 21 août. J'ai gardé le billet d'avion de Madagascar, je l'ai dans ma chambre. Et si je ne me trompe pas, la date disait bien 21 août, oui. Nos premières impressions, c'était que c'est pas comme à la télé. Enfin, tout ce qu'on voit à la télé, c'est que voilà, on a l'impression que les personnes qui sont ici sont les personnes qui se baladent dans la rue avec des calculatrices dans la main, qui s'arrêtent au beau milieu de la route pour faire un calcul sur la calculatrice. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. À Harvard, vraiment, j'ai remarqué qu'il y a de tout. Donc, évidemment, il y a aussi des personnes qui se baladent avec la calculatrice dans la main dans la rue, mais il y a aussi les athlètes, il y a aussi les skieurs, il y a aussi ceux qui sont fans de poésie, qui ont écrit des livres, qui ont écrit des pièces de théâtre. Il y a vraiment un mélange fou juste dans ma classe aussi.
Là, on est où, Karim ? Vous pouvez...
Ici, nous sommes dans la bibliothèque de Lamont, qui a été fondée, si je ne me trompe pas, en 1844 par un donateur de Harvard.
Alors, cette bibliothèque, elle a un café.
Et je pense que le café ferme à 2h du matin tous les jours. Cette bibliothèque est la seule sur le campus qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Et vous est arrivé de venir jusqu'à 2h du matin ?
Ça m'est arrivé de rester jusqu'à 9h du matin, oui. Et justement, il y a des personnes, c'est un terme qui est culturel ici à Harvard, cette bibliothèque s'appelle Lamont, et les personnes qui passent soit une soirée, soit plusieurs jours ici à Lamont, on les appelle les Lamontsters. Et il y a un site internet justement qui s'appelle Sleeping at Lamont, où il y a des personnes qui prennent des photos des autres personnes qui sont en train de dormir et les mettent sur ce site internet. Et c'est là où vous voyez tous vos copains la semaine avant les examens en train de dormir par terre, là, qui sont en train de baver sur des livres, enfin...
Et pourquoi ils restent dormir ici ? Parce qu'ils papotent et ils n'ont pas envie de rentrer dans leur dortoir ou parce que vous vous croulez vraiment sur le travail ?
Moi, personnellement, je préfère étudier ici parce que ma chambre, des fois, est beaucoup trop en désordre pour que je puisse avoir les idées claires dans la tête.
Vous avez aussi besoin beaucoup faire la fête.
Il y a une éthique un peu ici à Harvard, c'est « work hard, play hard ». Donc pendant la semaine, vous voyez la peinte de la Monsters qui dorment et travaillent ici à la bibliothèque. Et le week-end, vous avez des abus, des excès, un peu de tout, oui. Donc en fait, il y a une partie fondamentale de la vie sociale à Harvard, c'est ce qu'on appelle les « final clubs ». Ce sont des clubs que pour les garçons des upperclassmen. Donc nous, en tant que freshmen, on n'est pas autorisé d'y entrer ou quoi que ce soit. Et ce sont ces clubs-là qui ont vraiment le plus d'endowment, qui sont vraiment très, très bien sponsorisés par des alums.
Les anciens.
Des anciens,
ouais.
Exactement.
Mmh,
et donc, c'est eux qui font les plus grosses soirées sur le campus.
Alors, comment les filles entrent dans les final clubs ?
Elles n'ont pas de restrictions. Nous, enfin, en tant que freshman boys, ils ne font pas entrer d'habitude.
Et les filles ? Non.
Les filles n'ont pas de problème.
Ah, elles n'en font pas partie, elles peuvent y rentrer.
Exactement.
Mais ce sont ceux qui en font partie qui les choisissent ?
À l'entrée, oui.
À l'entrée, c'est comme une boîte tenue par des garçons.
Pratiquement, oui. Et donc, il y a toujours des histoires avec ce genre de club. Et hier, apparemment, ils ont fait une soirée qui s'appelle Eurotrash. C'était vraiment la soirée de l'année, apparemment. Donc, je sais pas
exactement. C'est pour ça que vous me répondiez très tardivement ce matin.
Ah non, je ne suis pas allé, non. Donc, si je ne me trompe pas, la dernière soirée dans laquelle j'étais, ben, c'était hier soir, c'était une soirée organisée par l'équipe de ski qui fêtait leur fin de saison. Et donc, ils avaient invité, je ne me trompe pas, une trentaine, quarantaine de personnes dans leur chambre.
Dans leur chambre?
Oui.
Donc, vous étiez complètement collés?
Il y a certaines chambres qui sont assez grandes. J'habite dans une single moi-même, donc ma chambre est très grande pour une personne. Mais si je veux avoir des personnes chez moi, donc ça devient beaucoup plus petite.
Et vous faites quoi? Vous écoutez de la musique?
La musique américaine, ce qui j'appelle pas vraiment de la musique, mais on écoute ça, oui.
Alors là, on a un fitness room.
Vous voulez voir le fitness
room? Et on a des studios pour la pratique des instruments, ici et ailleurs. Tuteur qui est dans le département des langues romanes, de la littérature et langues romanes, qui fait de l'exercice,
oui.
Mais dont la spécialité est la littérature et le film italien.
D'accord. Vous êtes américain?
You're American? Ah, ok.
I said
he is American.
He's American.
Yeah.
Ciao.
MIT, 1. Vocational Technical School a mile down Mass Ave. 2. Where you go if you want to join ROTC. But don't tell any of the campus uber liberals, do tell the Salient. MIT, école permettant de passer un CAP technique, se trouve en 2 km plus bas sur Massachusetts Avenue. Établissement où l'on va pour rejoindre le corps d'entraînement des officiers de réserve, ce qui n'est pas possible à Harvard. Faites attention de ne pas le dévoiler aux étudiants gauchistes. Par contre, dites-le aux conservateurs de Harvard.
Vous êtes Christy McDonald, housemaster.
Oui.
Avec votre mari.
Oui.
Qu'est-ce que c'est, un couple de housemaster? C'est toujours un couple.
Oui, pour le moment. Et alors, comment vous décrire ce que fait on nous? Je pense que on est là pour essayer, n'est-ce pas, de faire en sorte que la maison globalement fonctionne. Et souvent, notre rôle est un rôle de support, n'est-ce pas, de rendre possible les choses. Et cela nous plaît évidemment beaucoup. Les étudiants ont des intérêts extrêmement divers, sont extrêmement talentueux. Non, dans la maison, on essaie justement d'enlever ce stress de la compétitivité, mais ils savent ce que les autres font, n'est-ce pas? Et le problème, c'est qu'on a des étudiants qui sont tellement talentueux, enfin, tellement. C'est visible pour certains. Par exemple, nous avons des étudiants qui viennent ici, qui jouent de la musique, mais qui sont au niveau des solistes que vous voyez dans le monde. Enfin, c'est inouï. Et à côté, ce sont des jeunes, enfin, qui doivent choisir. Mais donc, leurs pères peuvent voir qu'ils ont ce talent. Mais eux peuvent être, n'est-ce pas, le nouveau prix Nobel en physique, n'est-ce pas, dans 10 ans. Et leur talent est fait problème d'une certaine manière en soi parce que ils doivent le ménager. Enfin, je dirais, ils doivent le développer. Et ça paraît un problème sans problème, mais ce n'est pas le cas. Enfin, ils doivent pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier de leur talent, mais en même temps vivre une vie.
Oui, les familles sont très exigeantes.
Ils ont eu un niveau de performativité pour entrer ici qui a dû commencer très, très jeune et qui a certainement traversé leurs années de lycée. Enfin, autrement, ils ne sont pas ici. Ils abandonnent très peu. Quelquefois, ils se retirent pour un semestre. S'ils ont pas réussi dans... Il y a un règlement dans un certain nombre de cours. Ils doivent se retirer pour repenser, réfléchir. En principe, on a 93% d'étudiants qui finissent, mais peut-être pas dans les 4 ans. peut-être en 5 ans, peut-être qu'ils reviennent un peu plus tard.
Félix, vous êtes étudiant au collège de Harvard. En quelle année ?
Je suis en 4e année, alors je suis un senior.
Vous parlez français parce que vos parents sont français. Vous avez grandi aux États-Unis.
J'ai grandi aux États-Unis depuis l'âge de 2 ans. Mais j'ai grandi avec une famille qui parlait français. Et je parlais américain pendant la journée à l'école et français à la maison.
Vous pouvez nous dire où on est là ?
On est dans un café qui s'appelle le café Gato Rojo. C'est un coin un peu indie, c'est-à-dire les étudiants un peu indépendants, légèrement alternatifs viennent ici.
Où est-ce que vous êtes, vous ?
Moi, je suis dans Leverett House. Par contre, je vis off-campus depuis cette année. J'ai décidé de sortir de pas vivre dans un dortoir.
Pourquoi ?
C'est un peu surprenant, mais c'est assez rare les étudiants qui aiment de vivre ce qu'on appelle off-campus. On n'est que 120 sur 6000 undergrads à vivre pas dans un dortoir. Y a un peu une atmosphère de everything is perfect, you know, like nothing is wrong. Mais en fait, il y a beaucoup de gens déprimés là. Il y a beaucoup de gens qui sont mais complètement overwhelmed. On est tout le temps entouré de gens surdoués, des gens surintelligents.
Mais vraiment, ils sont vraiment très intelligents.
Oui, ils sont très intelligents. Il y a la personne à ma gauche qui a fait le stage à McKinsey qui va, dès qu'il sort d'Aval, il va se faire 60 000 dollars par an. La personne à ma droite, à 22 ans. À ma droite, il y a le pianiste semi-professionnel. Et après, il y a moi. Et moi, je suis, moi, j'aime bien lire. Moi, je joue au piano. Rien d'incroyable.
Souvent, ils aiment se déshabiller, je ne sais pas trop pourquoi. Ça se fait d'ailleurs une fois par an.
Encore, maintenant ?
Oui. Il y a une sorte de rite de passage. Et les étudiants se déshabillent et courent autour de ce centre du campus, surtout après la première neige. Alors, c'est très photographié.
Ils le font devant les touristes.
Oui, mais ça se fait assez tard le soir. Donc la nuit est tombée, ils hurlent, ils crient, ils chantent, ils courent. Il y a, je ne sais pas, une sorte de jeunesse folle. C'est une tradition. Il y a d'autres, je ne dis pas des émeutes, mais des manifestations plutôt folkloriques et humoristiques.
Walk of Shame, Widener Library, Winthrop House, the Women's Center, the college's home to resources for people of all genders. Even Money says the salient paints pretty much every part of that above sentence. Yale, Z. Proctor, Punch, Cordoba, Quadded.
Merci à Robert Darnton, historien, professeur et directeur des bibliothèques de Harvard.
Radcliffe.
François Proux, assistant professeur au département de littérature comparée.
Republican.
Christy MacDonald, professeur au département de littérature comparée et directrice d'une des 12 résidences du campus, Mather House. Randall Kennedy, professeur de droit. Sylvie Laurent, enseignante à Sciences Po et chercheuse à l'Institut Dubois, le centre d'études africaines-américaines de Harvard. Christine, Louis Sid, Karim Pirbet et Géraldine, étudiants au collège de Harvard. Et merci à Patrick Autréau et Philippe Lecor. Avec les voix de Laura Talent et Aurélia Petit, traduction Laura Talent, attachée de production Sylvia Favre, productrice coordinatrice Catherine Libert. Villemonde Harvard, Le Mythe, un documentaire de Virginie Bloch-Lenné, Charlotte Roux, Mathieu Leroy, réalisé avec le soutien de l'Office du tourisme du Massachusetts. Thank you.
Notre voyage continue sur le site internet franceculture.fr où vous pouvez réécouter et podcaster Harvard Ville Monde et toutes nos escales à travers le monde. Et notre voyage à Harvard continue demain après le mythe, la formation d'une élite, passeport pour l'excellence. Seconde escale, Harvard Ville Monde, ce dimanche 30 août à 15h, rediffusion de septembre 2013, réinvitation au voyage.